Alors, si je comprends bien, cette technique est utilisée depuis 15 ans. L'AHS a évalué le dossier donc en 2015. Donc, comment sont pris en charge actuellement les patients, du point de vue financier? Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les 30 000 patients actuellement à Paris? Est-ce que eux-mêmes, je crois qu'à la société, vous avez un observatoire du sommeil? Est-ce qu'éventuellement, ils sont suivis par ce biais-là?
Alors, oui, juste en introduction, ces patients sont toujours traités aujourd'hui. La HAS nous a donné un petit délai, justement, en fonction de ce qui est en train de se mettre en place. Ces patients sont traités, pris en charge par la Sécurité sociale, complétés par la mutuelle si nécessaire, selon un forfait typique classique de pression positive continue, qui est le forfait 9. Donc, les prestataires de services sont remboursés par ces instances sur un forfait typique qui est le forfait utilisé pour du SAS obstructif classique traité par pression positive continue. Donc, c'est un coût qui est identique à une PPC classique. C'est un mode de ventilation particulier qui permet d'être efficace quand notamment la PPC est justement en échec. Oui.
Excusez-moi, parce que juste, il y avait deux éléments à cette question, c'est-à-dire en particulier concernant l'observatoire. Cet observatoire de la Fédération française de pneumologie est un observatoire qui ne tient pas compte des apnées centrales. Hein, les indications, c'est le syndrome d'apnée du sommeil obstructif traité par ventilation PPC. Hein. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et là encore, l'intérêt de cet observatoire que nous présentons n'est absolument pas de rentrer en compétition avec d'autres choses, mais d'apporter des éléments complémentaires et de précision par rapport à une population donnée qui n'est pas du tout prise en charge, enfin explorée actuellement.
Une question au fond. Oui,
bonjour, je suis docteur Alphonse de Bastia. Une question peut-être plus pour le professeur David. Est-ce qu'on a vu apparaître quelque chose de positif ou de négatif à l'arrêt de cette ventilation auto-asservie? On sait que c'est un peu récent, c'est peut-être que... Est-ce qu'on a quelque chose de positif ou négatif?
C'est une excellente question, mais je pense que ça intéresse tout le monde là, qui est autour de la table. On a tous eu des exemples ponctuels. Il existe des registres en cours. Et je vais laisser plutôt Jean-Claude conclure là-dessus.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on s'est posé vraiment cette question. Et pour nous, ça a été extrêmement difficile. Il y a un an et demi, de devoir arrêter les appareils de ventilation auto-asservie à des patients qui étaient nettement améliorés par cette ventilation, qui se sentaient abandonnés, c'est vraiment le terme, il y a un an et demi, quand on leur a demandé d'arrêter cette ventilation, et qui, je pense, correspondaient probablement aux patients dont la fraction d'éjection du ventricule gauche était la moins altérée. Et donc le bénéfice était probablement le plus important. Le problème est qu'aujourd'hui, ces patients, effectivement, sont un petit peu dans la nature, un petit peu partout en France, et qu'on a lancé la possibilité de mise en place d'un véritable registre de désappareillage, qui a été fait à l'initiative de l'équipe de Grenoble, qui actuellement tente de regrouper les données de ces patients un petit peu partout en France depuis l'arrêt de la ventilation, avec... des données qui vont être le plus systématiques possible d'évaluation à la fois polysomnographique mais aussi fonctionnelle respiratoire ou gazométrique et enfin de morbimortalité. Et donc là aujourd'hui je crois que personne ne pourra répondre de manière globale et suffisamment scientifique à votre question. Ce qui est certain, c'est que entre nous, lorsque l'on discute de nos patients depuis l'arrêt de cette ventilation, eh bien on a tous des exemples, des expériences de patients qui ont été moins bien, des patients qui ont été altérés, voire même, dans certains cas, de décès de patients. Mais là encore, peut-être serait-il resté sous ventilation et aurait-il décédé sous ventilation. Là, personne ne peut le dire. Donc, j'espère, vous comprenez bien toute la réserve que je mets dans ce que je vous apporte aujourd'hui comme information. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de répondre à cette question, même si chacun... à des expériences de patients qui ne se sont absolument pas dégradés depuis l'arrêt de la ventilation, qui ont gardé le même index d'apnée hypopnée centrale que lorsque la ventilation avait été mise en place 4 ans, 5 ans auparavant, et puis d'autres patients pour qui il y a une dégradation, mais pour laquelle on ne peut pas du tout savoir quel aurait été leur pronostic antérieur.
je voudrais rajouter que deux choses. D'abord, les recommandations sont très claires, et même si nous avons beaucoup de discussions, nous, cardiologues, avec nos confrères par rapport à la fraction d'éjection, actuellement, fraction d'éjection inférieure à 45% et ASV ou EA ne font pas bon ménage. Mais donc, nous ne pouvons pas garder ce type de patient, quelles que soient les réticences de nos patients. La deuxième chose, j'ai soulevé tout à l'heure le problème éthique que pouvaient poser les études. Il est pour moi vraiment très dommage qu'au moment où il a fallu arrêter le produit, nos autorités ne se soient pas posé le problème du registre. Hein, c'était les universitaires qui ont dit « Mais attendez, on ne va pas arrêter comme ça, faisons un registre. » Mais on aimerait que la NSM, avant de nous balancer, excusez-moi du terme, des termes... voilà, on a tous eu des mails à partir du mardi, je crois que c'était le 13 mai, minuit, il faut tout arrêter, vous avez 15 jours pour tout arrêter. Plutôt que d'envoyer ces mails-là, il devrait aussi se poser le problème éthique du registre pour savoir qu'est-ce que l'on fait vraiment. Et là, c'est un vrai appel que je fais pour qu'on fasse attention à nos décisions.
Non, je n'ai rien de... Pardon, je voudrais quand même, par rapport aux commentaires qui étaient faits sur les patients qui ont été désappareillés et qui étaient plus ou moins symptomatiques ou l'impression qu'on les laissait un peu dans la nature. D'abord, je pense que tous, on les a suivis de façon très étroite parce que justement, les désappareiller un patient, ce n'est pas rien. Et puis, j'aimerais rappeler que dans les résultats qui ont été publiés sur l'étude Servet de Chef, il n'y a pas de bénéfice, même symptomatique, au traitement par cerveau-ventilation. Donc ça, c'est un élément important, et c'est un élément important à rappeler à nos patients quand on interrompt sa ventilation, dans le cas particulier du SAS central chez l'insuffisant cardiaque à FEVG altéré.
Dire que les patients étaient dans la nature, tout à l'heure, c'était aussi bien dire que, bien sûr, ils étaient surveillés par les médecins responsables, mais qu'on n'a à aucun moment eu l'association de ces données qui nous permettent à un niveau un peu supérieur de pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé.
Et puis pour rebondir aussi sur... Alors là, je reprends quelque chose que vient de dire Jean-Marc et qui rejoint la question que vous nous avez posée tout à l'heure, monsieur, à propos du financement de ce registre. La NSM nous a dit « Vous arrêtez tout ». Et quand on s'est tourné vers eux en disant « Bon, il faudrait faire un registre. Quel financement vous nous proposez ?» Ils nous ont dit « Mais on ne vous propose pas de financement. Débrouillez-vous ». Et donc, après, on est face aussi à nos responsabilités, à ces responsabilités de devoir trouver des financements. Et donc, on ne peut pas nous... Enfin, je veux dire, là aussi, sous-jacent, on a régulièrement, et il est fait régulièrement le procès de médecins qui auraient des conflits d'intérêts, ou de chercheurs qui ont des conflits d'intérêts, mais face à des institutionnels qui nous disent « Nous, on ne vous finance pas vos projets de recherche, débrouillez-vous pour trouver des financements, ou au minimum, un cofinancement ». Donc on ne peut pas nous demander le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'avoir aucun lien avec l'industrie, et par ailleurs de trouver des financements. Il y a quand même une espèce de message paradoxal qui nous est envoyé par nos institutions, qui nous met dans une situation délicate.